nous en sommes au quatrième jour de notre retraite. Et nous allons aujourd'hui continuer à arpenter les chemins spirituels de notre maître, M. Lo. Après avoir quitté l'Afrique du Sud, la famille Lo vit maintenant au Canada. En mars 1964, M. Lo commence à méditer. Tous les matins, de 4h30 à 6h30, il s'assoit sur une chaise droite et laisse des questions flotter, pour ainsi dire, librement dans son esprit. Il a glané ces questions dans les livres de Gurdjieff et d'Hubert Benoît qu'il a lus si attentivement. Qui est-il au-delà de l'expérience? Quelle est cette unité primordiale dont parle Hubert Benoît et ce soi de Gurdjieff que l'on ne doit pas oublier? Y a-t-il quoi que ce soit qui ne soit pas une expérience? Il médita seul pendant 2 ans autour de ces questions. Malgré l'équilibre retrouvé dans sa vie familiale et professionnelle, il se sentait toujours désenchanté face à sa propre vie, tout en étant paradoxalement habité par un espoir sans limite, mais sans pouvoir dire ce qu'il espérait. Il savait seulement que quelque chose était possible. Puis il rencontra Yasutani Roshi, un maître japonais qu'il considéra toujours comme son premier maître dans le zen. Il le rencontra d'abord à travers un livre, « Les trois piliers du zen » de Philippe Capelot. Albert dira plus tard, « J'ai une dette immense envers les livres. Ils m'ont toujours aidé à trouver ma voie. Les livres ne peuvent évidemment pas remplacer le contact direct avec un maître, mais ils ont une grande valeur à mes yeux. C'est en lisant le livre de Philippe Capelot que je rencontrai Yasutani Roshi pour la première fois. Ce maître, issu des lignées Soto et Rinzai du zen japonais, accepta de venir au Canada afin d'animer un atelier d'introduction à la méditation zen. Albert et Jean firent alors leur tout premier pas dans la tradition vivante du zen. À la fin de cet atelier, Yasutani Roshi annonça qu'il allait bientôt animer une retraite intensive de 4 jours au centre zen de Rochester, qui était à ce moment dirigé par Philippe Capelot. À l'automne 1966, à l'âge de 38 ans, Albert participa ainsi à une première retraite à Rochester. Il écrira plus tard, j'ai gardé peu de souvenirs de cette première retraite, si ce n'est qu'elle nous laissa à Jean et à moi une impression profonde et vint soutenir notre résolution à poursuivre la pratique du zen. Yasutani leur demanda en son absence de poursuivre leur pratique avec Philippe Capelot. Ils participèrent quelques mois plus tard à une deuxième retraite de 2 jours à Rochester, puis à plusieurs autres au cours des mois suivants. Albert, à la demande de Yasutani, travaillait déjà avec le koan Mu, et il comprit bientôt que ce koan recoupait les questions fondamentales qui l'avaient toujours habité. Mais il dut traverser à cette époque une autre période de profonde obscurité. Une appréhension profonde l'habitait en effet, depuis la fin de sa première retraite avec Yasutani, et cette appréhension allait s'intensifier au cours des années suivantes. Elle prenait différentes formes, celle d'une peur panique, de mourir qui l'accompagna jour après jour pendant plus de 2 ans, celle aussi de s'endormir la nuit, par peur de sombrer dans le néant, ce qui lui causa des insomnies sévères qui le laissaient épuisé. Celle aussi d'un désastre imminent et irréparable qui allait s'abattre sur lui, comme s'ils marchaient continuellement au bord d'un précipice. Ils méditaient tous les jours, avec l'espoir d'échapper à ces peurs obsédantes. Encore une fois, il retourna à ses livres, comme à des bouées de sauvetage, et c'est en lisant à nouveau Gurdjieff qu'il put donner du sens à ce qu'il traversait. La lecture de Gurdjieff ne fit pas disparaître mes appréhensions, mais me permit de mieux comprendre ce qui m'arrivait. C'était comme donner à une personne qui est complètement perdue au milieu de la nuit et qui n'a aucune idée de la route à suivre, une carte routière. La personne doit quand même poursuivre sa route dans l'obscurité, tout en continuant à éprouver de la peine et de l'affliction. Mais le fardeau inutile de ses doutes s'allège. Elle a maintenant une direction à suivre. Cette direction que Gurdjieff lui indiquait était celle de la souffrance intentionnelle, avec laquelle, disait-il, il nous faut travailler afin de dépasser l'illusion d'être unique et distinct, séparé des autres et du monde, qui est notre plus grande vanité humaine, et que nous protégeons de toutes nos forces. Albert écrira plus tard, « Nous ne pouvons pas choisir si oui ou non nous allons souffrir. La vie est indissociable de la souffrance. Nous pouvons cependant choisir comment nous allons souffrir. Gurdjieff m'exhortait à m'ouvrir intentionnellement à ma propre souffrance, à cesser de la fuir et à devenir conscient de ma propre vanité afin d'établir en moi des fondements d'un véritable travail spirituel. J'avais confiance en lui et je pressentais qu'il disait vrai. Au cours de cette période difficile de ma vie, cela m'aida considérablement. » Albert comprit que sa peur de la mort et toutes les autres peurs qui l'accablaient sans relâche étaient en fait des appels qu'il lançait à la vie éternelle, comme si une lumière brillait en lui, au sein même de l'obscurité dans laquelle il se trouvait. La seule façon pour lui de laisser monter cette lumière dans sa propre vie était de traverser ses peurs avec humilité et patience. Et chaque fois qu'il se répétait à lui-même les paroles du Christ à ses apôtres terrifiés, qui, selon l'Évangile, le voyaient marcher sur les eaux, « N'ayez aucune peur, c'est moi. » Ses peurs refluaient aussitôt. Il dira aussi que les enseignements du Bouddha lui furent à ce moment d'un grand secours, particulièrement l'histoire de Kisagotami, la jeune mère éplorée qui vint un jour supplier le Bouddha de l'aider à guérir son enfant, qui était déjà mort, mais qu'elle tenait serré contre elle depuis des jours, ne pouvant se résigner à l'abandonner. Il dira, « La détresse de cette jeune mère était très réelle pour moi. Moi aussi j'allais vers le Bouddha, avec un enfant mort dans les bras. Cet enfant, c'était ma propre vie, qui, avec tous ses espoirs et ses possibilités, me semblait bel et bien disparu à jamais. » Albert participa à cette époque à de nombreuses retraites au Centre Zen de Rochester et poursuivit son travail spirituel auprès de Philippe Capelot, le principal successeur américain de Yasutani Roshi. Son nouveau maître l'assura que ses peurs et ses appréhensions étaient des makyo, c'est-à-dire des états d'esprit particuliers qui sont des sortes d'illusions ou d'hallucinations que l'on traverse parfois lorsque l'on pratique le zen. Les makyo sont surtout fréquents dans les premiers temps de la pratique, et malgré leur caractère parfois spectaculaire ou inquiétant, ils restent sans valeur réelle sur le plan spirituel. Ils disparaissent peu à peu la plupart du temps lorsque notre pratique gagne en maturité. Il ne sert à rien de s'y attacher ou de tenter de les retenir et les perpétuer. En décembre 1974, au lendemain de la retraite du Rohatsu, la retraite de 6 jours qui célèbre traditionnellement l'éveil du Bouddha, M. Lo connut un éveil profond. Il en parlera lui-même assez peu, sinon dans le but de dénoncer l'idéalisation de l'éveil qui était alors courante dans les communautés du zen américain. Au moment de mon éveil, je ne gagnais aucune connaissance nouvelle, aucune vérité secrète au sujet de l'univers, aucune sagesse fondamentale, ni même une quelconque vision. Je n'en savais pas plus que ce que je savais déjà avant de m'éveiller. L'éveil était simplement un éclair de pur connaître, hors de toute connaissance particulière. Il me fallut des années pour en mesurer la véritable signification. Il poursuivit sa formation auprès de Kaplow pendant les 12 années suivantes, étudiant tous les koans du Mumonkan et de l'Ikigan Roku et abordant les 10 préceptes comme s'il s'agissait de koans. Il connut d'autres éveils au cours de cette période. En 1976, Gene et lui aménagèrent au centre zen de Rochester en tant que résidents permanents. Ils allaient y rester pendant 3 ans. En allant vivre à Rochester, Gene et moi n'avions ni l'intention d'y vivre indéfiniment, ni d'adopter la vie monastique. J'espérais simplement y acquérir les compétences qui me permettrait un jour de diriger un centre et d'enseigner la pratique du zen afin d'aider les gens, comme d'autres m'avaient moi-même aidé dans le passé. Son maître lui proposa un jour de prendre la direction d'un groupe de personnes qui pratiquaient le zen à Montréal. Albert, qui parlait français et avait déjà accompagné Kaplow à Montréal en tant qu'interprète auprès de ce groupe, accepta aussitôt. Gene et lui vinrent s'établir à Montréal en juillet 1979. Un an plus tard, le groupe se porta acquéreur de la maison et des terrains actuels du centre. Au cours des 6 années suivantes, le Zendo fut rénové, la maison en vint à accueillir jusqu'à 12 résidents, et le jardin fut redessiné et restauré. Le centre resta affilié à Rochester, c'est-à-dire sous l'autorité et la supervision de Philippe Kaplow, jusqu'en 1986. Kaplow conféra cette année-là à Albert la pleine autorisation d'enseigner le zen. Albert devenait enfin son propre maître. Ni Philippe Kaplow, ni aucun de ses subordonnés ou disciples ne pouvait plus dès lors exercer aucune autorité sur nous. Nous étions devenus, et nous le sommes toujours, complètement autonomes et indépendants. Albert multiplia bientôt les activités du centre. Il anima pendant les années suivantes jusqu'à 13 retraites par année à Montréal, une chaque mois et 2 en juin. Le centre offrait aussi 6 journées intensives par année, 6 ateliers d'introduction et des soirées régulières de zazen qui se tenaient les lundis, mardis et jeudis. Albert anima également à cette époque des ateliers d'introduction et de courtes retraites à Kingston et Ottawa en Ontario, à Québec et à Granby, en France à 2 reprises, et jusqu'à Austin, au Texas. Des groupes affiliés au Centre Zen de Montréal se formèrent à Kingston, Québec, Rimouski et Granby. Le centre en vint éventuellement, au cours des années 90 et 2000, à compter jusqu'à 250 membres. Une dizaine de moniteurs et monitrices assuraient maintenant la bonne marche des activités. Un conseil d'administration dirigé par Albert voyait aux affaires du centre, et des membres bénévoles s'affairaient à entretenir les immeubles et terrains. En plus de son travail au centre, Albert commença à cette époque à écrire plus régulièrement. Il dira plus tard, « Je commençais à écrire. Dans le passé, et ce en dépit du fait que j'avais déjà publié deux livres, « Le Zen au service du management » et « The Iron Cow of Zen », qui n'a jamais été traduit en français, écrire m'avait toujours paru difficile et laborieux. Cela ne me venait pas facilement. Je découvrais maintenant que j'y arrivais sans difficulté et avec fluidité. L'éveil n'est pas une expérience. Et en écrivant, je devins capable d'explorer ce que cela signifiait. Et tous les livres que j'ai écrits depuis ce temps sont à mes yeux des élaborations de cet énoncé. L'éveil n'est pas une expérience, mais une façon différente d'expérimenter. Écrire devint pour moi une forme de méditation. Le Centre Zen de Montréal devint à cette époque une oasis spirituelle pour tous ceux et celles qui, insatisfaits de leur propre vie et peinant à y trouver du sens, chercher la vérité. Le calme et la sérénité des lieux, tout comme l'élan ardent que M. Lowe encourageait dans la pratique et insufflait par ses livres et ses téchauds à toute notre communauté, éveillait en chacun un immense espoir, celui de réaliser notre vraie demeure. Que peut-on vraiment dire de plus? Albert est décédé le 27 janvier 2016, après avoir guidé notre communauté pendant près de 30 ans. Ses cendres ont été dispersées dans le jardin du centre. Comme le dit quelque part le maître zen vietnamien Thich Nhat Hanh, demain, je continuerai à être. Mais vous devrez vous montrer très attentif pour me voir. Je serai une fleur ou une feuille, et c'est sous ces formes que je vous dirai bonjour. Si vous êtes suffisamment attentif, vous me reconnaîtrez et m'accueillerez. J'en serai très heureux. N'oublie pas le maître, nous dit Khyentse Rinpoche. Prie-le tout le temps. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Observe sa nature. N'oublie pas la mort. N'oublie pas les êtres. Prie pour eux avec compassion.